Alors, depuis, ben, c'est ça, depuis maintenant un peu plus que 48 heures, la guerre à laquelle on faisait référence depuis plusieurs mois, au conditionnel est passé maintenant à l'indicatif présent. La guerre bat son plein. On est en train de pilonner actuellement les positions irakiennes. Professeur Chossudovski, vous êtes de ceux qui, pendant toute cette période-là de gestation, faisaient des pieds et des mains pour faire comprendre le maximum de personnes que cette guerre-là était plus ou moins inévitable dans la mesure où elle faisait partie intégrale des plans du régime Bush depuis son investissement. Et ce, malgré toute la charade des inspections là, et le bras de fer avec le Conseil de sécurité. Alors, professeur Chossudovski, je vous demanderais pour commencer, maintenant qu'on est devant le fait accompli, est-ce qu'on doit continuer de mettre de la pression sur les élus, le gouvernement américain et britannique? Et si oui, quelles sont ces pressions-là? Qu'est-ce qui est possible? Et ou sinon, doit-on, à l'image de nos élus, là, nous contenter d'espérer que le conflit soit bref et puis qu'il fasse le moins de victimes possible?
Écoutez, je pense qu'il faut continuer cette bataille parce que ce n'est pas uniquement cette guerre-ci, c'est tout un processus de militarisation. On voit bien maintenant que les États-Unis veulent prendre possession des réserves pétrolières de l'Irak. L'administration Bush également a d'autres visées. Elle veut aussi prendre possession de toute cette région, en fin de compte. Il y a des conflits très graves au sein de l'alliance occidentale entre l'axe militaire anglo-américain et le reste de l'Union, disons l'Union européenne, mais surtout l'alliance franco-allemande. On est en train à Washington d'envisager la possibilité d'armes nucléaires à être utilisées contre l'Irak. Alors je pense qu'il faut continuer cette campagne. Mais on ne désarme pas un projet de guerre tout simplement par des manifestations ou par des pétitions qui sont envoyées aux élus. On doit nécessairement poser la question fondamentale, à savoir que cette guerre est criminelle, que les dirigeants politiques qui sont en arrière de ce projet, principalement l'administration Bush et le gouvernement britannique de Tony Blair, sont passibles de crimes de guerre, selon le droit international, la charte des Nations Unies, la charte de Nuremberg. Et sur cette question-là, on ne peut pas avoir aucun compromis. Et si nos élus n'ont pas souligné le caractère criminel de cette guerre, ils sont tacitement complices dans l'aventure militaire américaine. Je crois qu'il y a une ambivalence du côté de notre gouvernement, du gouvernement fédéral, à savoir que d'un côté, on condamne les actions guerrières de l'administration Bush, mais on ne souligne pas non plus le caractère criminel de ces actions, et on ne met pas en relief non plus tout le mensonge politique, la fabrication la désinformation de la population, la fabrication de pièces de renseignement fabriquées, présentées auprès du Conseil de sécurité. Je parle par exemple du document des services secrets britanniques qui a été plagié sur l'Internet et qui est présenté comme un prétexte pour la guerre. Les alertes, la fabrication d'alertes terroristes, code orange aux États-Unis, qui a pour effet de terroriser une population, alors qu'on sait maintenant, parce que c'est un rapport du FBI, que la CIA a fabriqué ces alertes, et ensuite, bien sûr, les médias les ont relayées et par conséquent, toutes ces questions-là sont des questions très graves. La pire des choses qu'on pourrait faire en ce moment, c'est de se dire, ah ben c'est trop tard, on va arrêter le combat. Je crois qu'il faut par contre s'organiser autrement, établir des réseaux, établir des comités de base, de plus en plus cibler la légitimité des acteurs politiques identifier les complicités. Certainement, si le gouvernement canadien dit d'un côté on est contre la guerre, mais si d'un autre côté le ministère de la Défense est impliqué dans des actions communes avec les Américains, ou que les navires, les canonnières canadiennes qui sont au large du Golfe Persique sont impliqués dans des activités d'appui. Tout ça, évidemment, c'est très, très important parce qu'on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures dans la guerre. Et ensuite, il faut aussi comprendre que la campagne militaire actuelle, qui est celle du shock and awe, du blitzkrieg, à savoir qu'on bombarde de manière intense durant 48 heures, eh bien, d'abord, il faut comprendre que cette doctrine militaire, elle est tirée du Troisième Reich. Mm-hmm. C'est une doctrine qui fut appliquée par l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, mais en fin de compte, la première fois qu'elle fut utilisée, c'était dans le village espagnol de Guernica, mm-hmm, en 1937. Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Donald Rumsfeld, est un admirateur de cette doctrine. D'ailleurs, il dit que les Allemands étaient vraiment des stratèges militaires incroyables. Et il a répliqué une méthode, une stratégie de guerre qui est celle du Blitzkrieg. On ne parle plus des dommages collatéraux. Mm-hmm. On n'en parle plus dans les médias. Et la raison est très simple, parce que le Blitzkrieg, en fin de compte, détruit tout. Ouais. Et là, depuis quelques heures, cette campagne du Shock and Awe, en fin de compte, c'est même pas une bonne traduction, parce que ça vient de l'allemand Sturm und Drang. C'est quelque chose qui est là également pour détruire. Donc, Sturm veut dire tempête. Mais en même temps, c'est aussi au niveau psychologique. C'est ce que les Américains appellent le psych-op, à savoir qu'on veut intimider une population, on veut les détruire dans leur capacité de se défendre. Et on peut imaginer la situation de la population civile à Bagdad en ce moment, les 5 millions de personnes, hommes, femmes et enfants, qui sont maintenant soumis à ces bombardements absolument intenses. Et on ne parle pas de petites bombes, on parle de missiles de croisière, ouais, qui sont d'ailleurs téléguidés par satellite à leur point de destination. Alors, je crois encore plus aujourd'hui que jamais il faut continuer la lutte contre la guerre, mais contre les acteurs, pas nécessairement juste dire on est contre la guerre. On doit déloger les criminels de guerre, et les événements des derniers jours, par exemple, à San Francisco, la ville a été paralysée. Ouais. Les luttes continuent, mais je pense qu'il faut commencer à déconstruire tout l'appareil politique militaire. Il faut aussi comprendre que l'administration Bush est complice dans les événements du 11 septembre. Et ça, c'est une arme pour nous de reconnaître le fait qu'il y a des complicités. C'est pas juste un prétexte. De plus en plus, nous avons les éléments de preuve, à savoir que des hauts dirigeants, des hauts responsables de l'administration Bush, dont Colin Powell, dont Richard Armitage, avaient des liens avec ces organisations terroristes. Et d'ailleurs, tout le monde sait que le Al-Qaïda a été créé par les Américains. Alors, c'est parce que ça fait partie de la doctrine de la sécurité nationale américaine, à savoir que l'Amérique est en train d'être attaquée, il faut se défendre. Et si on lit les journaux dans les derniers jours, on a l'impression que c'est l'Irak qui est en train d'attaquer les États-Unis, et que l'Irak est en train de collaborer avec Osama. Tout ça, c'est fabriqué, c'est un mensonge. Mais en plus d'être un mensonge, le gouvernement américain collabore de toutes pièces avec ces organisations terroristes qui ont été créées également de toutes pièces par la CIA. Alors, on fait face à un mensonge qui est absolument grotesque, où des incidents terroristes sont créés afin d'établir une légitimité pour une guerre contre le terrorisme, alors que les auteurs de ces attentats terroristes, en sous-main, c'est les services de renseignement américains. Et je crois que l'analyse, tous ces événements, incluant bien sûr la mise en veilleuse des lois fondamentales aux États-Unis avec le Patriot et la nouvelle législation qui s'annonce, qui est Patriot 2, qui fut déposée au Sénat il y a quelques mois à peine. Tout ça, ça fait partie de la même prise de conscience. C'est pas uniquement une lutte contre la guerre, c'est une lutte également pour le maintien des droits fondamentaux, et c'est aussi une lutte contre l'ordre capitaliste mondial qui est dominé par une poignée de grandes entreprises. Ce projet de guerre, c'est le projet des pétrolières, du complexe militaro-industriel anglo-américain et bien sûr de la haute finance de Wall Street. Ce sont eux les véritables maîtres du projet d'invasion. Ce n'est pas Bush, Cheney, Rumsfeld nécessairement qui sont des acteurs politiques, mais de nouveau il faut commencer. D'abord il faut comprendre ces mécanismes et ensuite il faut commencer de plus en plus à questionner la légitimité des principaux acteurs politiques et militaires.
Donc, si je vous comprends bien aussi, il ne faut pas croire nécessairement le gouvernement chrétien quand ils nous disent que, on a des bâtiments actuellement dans le Golfe Persique, mais c'est exclusivement pour faire la guerre au terrorisme. Si je vous comprends bien, en fait, cette pseudo-guerre au terrorisme et l'invasion de l'Irak participent d'une même mouvance.
Écoutez, les bateaux de guerre, les canonnières canadiens sont équipés avec des missiles mer-terre,
ouais.
Des torpilles anti-sous-marins, un équipement qui est essentiellement conçu pour mener une bataille en mer ou vers la côte, bien sûr, avec l'envoi de missiles, etc. On regarde la carte. Les présumés terroristes sont dans les hauteurs de l'Afghanistan.
Ouais. Pas tout à fait sur le bord de la mer.
Tout à fait sur le bord de la mer, parce que l'Afghanistan est un pays enclavé. Alors, ouais. Comment est-ce qu'on va attaquer la côte afghane à partir du Golfe Persique? Alors, de dire que c'est pour la lutte contre le terrorisme, alors qu'on sait très bien que c'est terrorisme international, c'est ouais. une fiction, c'est fabriqué, c'est un justificatif pour n'importe quoi. S'ils sont dans le Golfe Persique, c'est qu'ils sont positionnés pour une attaque éventuelle, pour un appui à l'opération militaire des États-Unis. Et on sait aussi que les Canadiens sont souvent mis sous commandement américain. Ouais. Alors ces questions-là doivent être débattues. Le ministre John McCollum, n'a pas la même perspective que le Premier ministre. Et par conséquent, il y a une dichotomie dans la rhétorique. D'un côté, bon, Jean Chrétien va dire, va prendre position. Je pense que c'est très important qu'il a pris position. Mais d'un autre côté, ce qui se passe au département de la Défense, c'est une autre affaire. Là le ministre McCollum est en train de collaborer avec son homologue américain, etc. Et les Américains n'ont pas vraiment dit... Je pense qu'ils sont assez satisfaits avec ce compromis canadien, ouais. parce que dans les faits, le Canada est partie prenante. Dans la rhétorique politique, on s'est prononcé au Parlement, mais on ne s'est certainement pas prononcé pour retirer les navires canadiens.
Ouais, ouais.
Okay? Ça, c'était la substance de la motion du Bloc québécois. Alors, faisons un peu la part des choses. Il faut que la rhétorique politique corresponde également à des actes concrets par les autorités canadiennes et le retrait des effectifs militaires canadiens du théâtre de guerre.
Maintenant, professeur Chossudovski, dernière question avant de vous laisser. Sans égard nécessairement au processus actuel, il est fort probable que le régime Baas tombe tôt ou tard en Irak. Pensez-vous que les Américains vont se tourner immédiatement vers les voisins iraniens?
Non, je ne pense pas qu'on va mener une guerre immédiatement à l'endroit de l'Iran. On l'a déjà, cette guerre-là est déjà planifiée depuis un certain nombre d'années. Mais je crois qu'il va y avoir un certain répit dans la planification. On procède par étapes.
Ouais.
Mais je crois que cette guerre ne sera pas facile. La guerre dans laquelle les Américains se sont embarqués, peut-être que je me trompe, mais on a lieu de croire, d'abord, tous les reportages font pacifier nécessairement,
non, non.
Parce que l'information est contrôlée par le Pentagone. Tout ce qui sort des médias nord-américains est contrôlé par le Pentagone.
Et on remarque aussi une certaine complaisance des médias, hein, qui sont pas trop prompts à dénoncer cette conjoncture-là.
Absolument. Ils sont d'abord, je crois qu'ils répètent un peu les communiqués officiels.
Ouais, ouais.
C'est intéressant, on regarde la presse européenne ou on regarde par exemple les communiqués de presse qui sortent de la Russie par exemple, et on a une vision assez différente. Je viens de lire un texte qui cite une analyse des services de renseignement russes, à savoir qu'il y a des problèmes sérieux dans cette campagne militaire et que effectivement, il y a des divisions aussi entre l'Angleterre et les États-Unis dont on n'a pas parlé également. Je veux dire, entre Blair et Bush. Et alors, la question, moi je crois que cette guerre va pas nécessairement se dérouler telle que prévu. Je crois que l'opinion publique internationale va bouger. Je crois qu'il faut maintenir les actions, pas nécessairement sous la forme de grandes manifestations, mais beaucoup plus, je dirais, sous la forme de réseautage, commencer à bâtir des comités contre la guerre dans chaque localité. C'est beaucoup plus effectif, ça a beaucoup plus d'impact que des actions ponctuelles. À telle et telle date, on en a besoin de ces actions-là, mais on doit aussi canaliser les énergies vers du travail, un peu le travail de base, le travail du grassroots, où on doit incorporer plus de gens dans l'organisation de ce mouvement contre la guerre.
Ouais.
Alors, parce que, en fin de compte, les comités qui organisent les grandes manifs, c'est des petits comités, hein. Alors, ce que je voudrais voir au Québec, c'est que dans chaque localité, on a un comité contre la guerre et qu'on commence à créer, à développer un genre de pouvoir parallèle.
Ouais, ouais.
Ce pouvoir parallèle serait parallèle à celui des gouvernements et qu'on puisse... en fait, ça serait un peu une démocratie directe, mais une façon pour les gens de s'impliquer et de commencer aussi par la sensibilisation, l'éducation, à faire prendre conscience et connaissance des enjeux plus graves, pas tout simplement le fait qu'on est contre la guerre, et de montrer qu'il y a aussi des questions de fond, de légitimité.
Mm-hmm.
Je suis pas en faveur de pétitions. Les pétitions ne servent absolument à rien. On les met à la poubelle. La façon de renverser la vapeur, c'est de déloger les dirigeants. Il n'y a aucune alternative. Et on n'envoie pas des pétitions à des gens qui sont des criminels. Les gens qui sont des criminels doivent être délogés. Bon, il y a du travail à faire avant de les déloger, mais je pense que l'administration Bush aujourd'hui est dans une situation où sa légitimité est certainement dans la balance. Et je crois que l'opportunité existe,
oui,
effectivement, de poursuivre des actions qui visent à un changement de régime aux États-Unis. Ça ne résout pas nécessairement les problèmes à plus long terme, mais c'est déjà une entrave dans les plans de guerre.
Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'une action de boycott généralisé des produits américains? Est-ce que, selon vous, ça risque de fonctionner ou c'est un peu utopique?
Je crois que si on fait des programmes de boycott, on devrait les faire de manière très ciblée.
Oui, oui, oui.
Très ciblée, il faut que ce soit très bien pensé, très bien réfléchi. Bon, essayons de voir les entreprises qui sont complices dans le projet de guerre. Alors, les compagnies pétrolières, oui, bien sûr, il y a Exxon, il y a British Petroleum, je ne suis pas d'avis qu'il faille nécessairement faire des boycotts, par exemple, de McDonald's.
Ouais, ouais.
Que McDonald's est en train de fournir du fast-food aux troupes, ça c'est une autre affaire, mais je crois qu'il faut... cibler et il faut que l'action soit comprise par la population. Si telle est telle, bon, il y a des compagnies pharmaceutiques qui sont impliquées dans des armes chimiques, mm-hmm. et ces armes chimiques sont utilisées non pas par Saddam Hussein, mais par les forces armées américaines. Alors, est-ce que ça c'est important? Oui, on pourrait cibler ces compagnies qui sont impliquées, qui fournissent l'appareil militaire.
Ouais.
Et on pourrait aussi commencer, je pense qu'il faut le faire, il faudrait cibler certains journaux ou certains médias
qui
sont impliqués dans des actions de fabrication de l'information.
Carrément complice.
Absolument.
Ouais. Sur ce, professeur Chosudovski, je vous remercie infiniment. C'est toujours un plaisir d'être exposé et d'exposer aussi la population à vos perspectives. Ça fait du bien.
Merci à vous.